Préface. Bienvenue, chères audiolectrices, chers audiolecteurs, dans cette nouvelle édition de The Art of Reading Minds. Comme on ne se connaît pas encore, voici un résumé de mon parcours. J'ai commencé à m'intéresser au comportement et à la psychologie humaine à l'école primaire. À force d'essayer de me faire des amis, j'ai fini par avoir la désagréable impression qu'on avait donné un manuel intitulé « Comment interagir avec les autres » à tout le monde sauf à moi parce que j'étais absent ce jour-là. Je me suis senti mal à l'aise en société, c'est le moins que l'on puisse dire, jusqu'en cinquième. Comme vous vous en doutez, cela veut dire qu'on se moquait beaucoup de moi. Cela m'a amené à me poser des questions. Qu'est-ce qui clochait dans mon comportement par rapport à celui des autres ? Pourquoi mes interlocuteurs agissaient-ils ainsi? Qu'est-ce qui influence nos actions et nos interactions? J'ai passé presque toute ma vie d'adulte à essayer de trouver les réponses à ces questions. J'ai cherché des pièces du puzzle dans différents domaines comme le théâtre, la publicité, la philosophie, les médias, la psychologie et la religion. J'ai ainsi fini par acquérir pas mal de connaissances sur le comportement humain et par les combiner avec mon amour de la magie. Je suis devenu ce qu'on appelle un mentaliste. Quand il n'est pas la star d'une série, un mentaliste est quelqu'un qui fait croire, en combinant la psychologie et la ruse et en détournant l'attention de ses interlocuteurs, qu'il peut lire dans les pensées et influencer les autres d'une manière presque surnaturelle. J'utilisais mon savoir uniquement pour m'amuser, car je ne pensais pas que quiconque serait intéressé par le véritable fonctionnement du comportement humain. J'étais convaincu que tout le monde le connaissait. Apparemment, j'avais tort, une fois de plus. On m'a vite demandé de faire des conférences sur le langage corporel et la communication non-verbale. J'ai écrit la première version de ce livre dans le prolongement de mes premières interventions en pensant, comme je l'ai déjà dit, que cela n'intéresserait qu'une poignée de personnes. En fait, deux poignées, ce sont 500 000 lecteurs qui ont lu mon livre, traduit en 35 langues, dans le monde entier, 10 ans et un nombre incalculable de conférences plus tard, je n'en reviens toujours pas. Je suis très fier que St. Martin's Press présente maintenant mon livre aux États-Unis et ailleurs. Pour fêter ça, je l'ai entièrement mis à jour et remanié, et j'en ai créé une version qui n'a jamais encore été publiée. J'espère qu'elle vous plaira. Henrik Fexius, Stockholm, 2019. Chapitre 1. Où j'explique ce que j'entends par « lire dans les pensées » et où je prétends que Descartes s'est trompé avant de commencer ce voyage avec vous. Lire dans les pensées, qu'est-ce que ça veut dire au juste ? Je crois en notre capacité à lire dans les pensées, entièrement et de tout mon cœur. Pour moi, ce n'est pas plus mystérieux qu'arriver à comprendre ce que dit quelqu'un quand il nous parle. En fait, c'est même peut-être un peu moins mystérieux que ça. En ce qui me concerne, c'est un fait qui ne peut pas être remis en question. C'est parfaitement naturel. C'est quelque chose que l'on fait tout le temps sans s'en rendre compte. En revanche, on le fait bien sûr avec plus ou moins de succès et plus ou moins consciemment. Mais je suis convaincu que, quand on sait ce qu'on fait et comment on le fait, on peut s'entraîner à le faire encore mieux. C'est là tout le sujet de ce livre audio. Alors, que fait-on réellement ? Qu'est-ce que j'entends par « lire dans les pensées des autres » ? Que signifie vraiment « lire dans les pensées » ? D'abord, laissez-moi vous expliquer ce que je ne veux pas dire. En psychologie, ce qu'on appelle « lire dans les pensées » envoie beaucoup de couples en thérapie car ils s'imaginent que l'autre peut deviner ce qu'il ou elle pense. S'il m'aime vraiment, il aurait dû savoir que je ne voulais pas aller à cette fête, même si j'ai accepté d'y aller. Ou « il s'en fiche de moi, sinon il aurait compris ce que je ressentais ». Ce genre de raisonnement ressemble plus à une crise d'égocentrisme qu'à autre chose. Croire qu'on peut lire dans les pensées des autres, alors qu'on se contente de projeter sur eux des attitudes et des valeurs mentales, peut aussi donner cela. « Oh non, maintenant elle va me détester. » Ou « elle doit avoir une idée derrière la tête. Sinon pourquoi sourirait-elle tout le temps comme ça ? » On appelle ça l'erreur d'Othello. Aucun de ces exemples n'est comparable à la lecture de pensées telle que je vais vous l'expliquer. Ce sont juste des idioties. La grande erreur de Descartes. Pour comprendre le mentalisme tel que je vais vous le décrire, vous devez d'abord comprendre un autre concept. Le philosophe, mathématicien et scientifique René Descartes est l'un des géants intellectuels du XVIIe siècle. Les effets de la Révolution, dont il est à l'origine dans les mathématiques et la philosophie occidentale, se ressentent encore aujourd'hui. Il est mort en 1650 d'une pneumonie au Palais Royal de Stockholm, où il enseignait la philosophie à la reine Christine. Descartes étant habitué à travailler dans un lit chaud et confortable comme tout bon philosophe français, il n'a bien évidemment pas résisté au sol de pierre glacée du château une fois l'hiver installé. Descartes a fait beaucoup de bonnes choses de son vivant, mais il s'est aussi parfois sérieusement trompé. Il a notamment prétendu que le corps et l'esprit étaient séparés. C'est sans doute l'idée la plus stupide qu'il ait eue, mais personne n'a réagi, car il avait conquis toute l'intelligentsia de l'époque avec ses belles formules comme « cogito, ergo sum, je pense, donc je suis ». Il était si populaire que cette étrange idée, principalement religieuse, selon laquelle les êtres humains sont composés de deux substances différentes, un corps et une âme, a fait bon nombre d'émules. Si certains pensaient bien sûr qu'il avait tort, leur voix était étouffée par les acclamations de ses partisans. Ce n'est que récemment que les biologistes et les psychologues ont prouvé scientifiquement que Descartes s'était trompé. Parmi eux, le plus éminent est peut-être Antonio Damasio, un neurologiste connu dans le monde entier. De nos jours, on sait que le corps et l'esprit sont étroitement liés sur les plans à la fois biologiques et mental. Mais la vie de Descartes a dominé si longtemps que la plupart d'entre nous pensent encore qu'il avait raison et continuent à différencier, même inconsciemment, le fonctionnement du corps de celui des pensées. Pour que la suite de ce livre audio ait un sens pour vous, vous devez comprendre que c'est faux, même si ça vous paraît encore un peu bizarre. En fait, aucune pensée ne surgit sans qu'il se passe physiquement quelque chose quelque part dans notre corps. Pour qu'une pensée apparaisse dans le cerveau, certaines de ces cellules doivent s'envoyer des messages selon des schémas particuliers, ce qui lance un processus électrochimique. Quand une pensée qu'on a déjà eue surgit de nouveau, le schéma existe déjà. On se contente alors de répéter l'opération. En revanche, si la pensée est complètement nouvelle, on crée un nouveau schéma qui agit aussi sur nous et peut modifier la diffusion des hormones, comme les endorphines, dans le corps ainsi que dans le système nerveux autonome, le centre de contrôle autonome de la respiration, de la taille des pupilles, de la circulation sanguine, du rougissement, etc. Chaque pensée agit sur le corps d'une façon ou d'une autre, avec parfois des effets évidents. Quand on a très peur, notre bouche s'assèche et notre sang afflue vers nos cuisses pour nous préparer à fuir si besoin. Quand on commence à fantasmer sur le type à la caisse du supermarché, cela entraîne d'autres réactions physiques très évidentes, même si on ne fait qu'y penser. Parfois, les réactions sont si infimes qu'elles sont indétectables à l'œil nu. Pourtant, elles sont là si on sait observer les changements physiques chez les autres et se faire une bonne idée de ce qu'ils ressentent, de leurs émotions et de ce qu'ils pensent. Quand on s'exerce à observer tout ça, on apprend aussi à voir des détails qui étaient jusque-là trop discret pour être remarqué. Le corps et l'esprit. Mais ce n'est pas tout. Non seulement toutes nos pensées influent sur notre organisme, mais l'inverse est également vrai. Tout ce qui passe dans notre corps agit sur nos processus mentaux. C'est facile à vérifier. Essayez par exemple de serrer les mâchoires, de froncer les sourcils, de fixer un point du regard devant vous, de serrer les poings et rester comme ça 10 secondes. Si vous le faites correctement, vous allez probablement rapidement sentir monter de la colère en vous. Pourquoi ? Parce que vous avez actionné les mêmes muscles que lorsque vous êtes en colère.